Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, hein, quelle joie de vous retrouver, hein, comme chaque lundi, 19h, 20h30, on va encore avoir beaucoup de choses à vous raconter ce soir. On reviendra naturellement dans la dernière partie de cette émission sur la finale de Roland-Garros avec notre équipe de spécialistes, hein, notamment emmenée par donc Stéphane Sorindo, mais aussi Myriam Emner, notre consultante, et Vanessa. On se tiendra un petit peu informé de la vie des Cobras de Paris avec Tania qui est avec nous ce soir, et puis naturellement, eh bien, on aura aussi, tiens, une interview d'un coach sportif, ex-entraîneur adjoint du Paris Saint-Germain, Denis Troche. Et puis ce soir, on va se lier notre invité, c'est Jean-Jacques Buchère, président donc du Yacht Moteur Club de France, d'Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir, ouais, merci de votre accueil.
J'ai bien dit.
Très bien.
Donc, ça veut dire qu'on va parler motonautisme, parce qu'on aime tous les sports sur notre antenne. Alors, première question, d'abord, où se trouve votre club? C'est un club de l'Île-de-France.
Alors, effectivement, donc, ouais, le Yacht Moteur Club de France est installé à l'aide du bord de l'eau, dans le bois de Boulogne, donc sur la commune de Paris, d'accord, à la limite de la ville de Boulogne.
Donc, vous êtes bien parisien, vous n'êtes pas des Hauts-de-Seine?
On est parisien, oui. Effectivement. Après, nos membres viennent de la région parisienne. D'accord. Et on a des écuries de course qui sont également basées en région.
Ouais. Alors, pourquoi l'appellation, ce nom, Yacht Moteur Club de France, arrivé comment?
Oh, écoutez, le club a été créé en 1907. Oui. À l'origine, il portait un autre nom dans les toutes premières années.
C'est pour ça que je pose la question, parce que j'ai lu sur votre site.
Ouais. Voilà, effectivement. Ouais. Et donc, il a rapidement pris ce nom parce que c'est une association donc qui s'est développée à l'origine du motonautisme, et qui a pris son essor dans les années 20-30, à l'époque où finalement le motonautisme existait assez peu. C'était plutôt des industriels qui investissaient dans de la recherche. Qui développait des carènes, des nouvelles formes de sport motonautique. Hein. C'était le début de l'aviation, c'était le début de l'automobile. Dans les bateaux, on avait des moteurs qui venaient du domaine de l'avion et de la voiture. On avait des moteurs hispano-suisses, on avait des moteurs Bugatti. Ah, oui. Et c'était une époque où finalement, c'était des capitaines d'industrie qui étaient les seuls à avoir les moyens de faire ces recherches. C'était pas du tout une activité démocratisée comme celle-là aujourd'hui.
Et vous? Comment vous arrivez à cette passion? Comment ça arrive?
Eh ben écoutez,
dans votre vie, comment ça vient?
Très jeune, j'ai pratiqué toutes sortes de sports, oui, sur l'eau, donc beaucoup d'aviron, kayak. Et un jour, j'ai eu le coup de foot pour un vieux bateau de 1930, une vieille vedette hollandaise. Que j'ai eu l'occasion d'acquérir, et je suis rentré dans un club pour être au milieu de passionnés de nautisme, pour échanger, pour partager de la connaissance, et c'est comme ça que petit à petit j'ai eu l'honneur de prendre la présidence du club.
Oui, vous aimez la vitesse, je suppose, alors?
La vitesse est une des dimensions du sport motonautique, mais le motonautisme, c'est aussi de la plaisance. Ouais. De gens qui profitent de la vie du fleuve avec des motorisations tout à fait, raisonnables, qui sont là pour le plaisir, pour profiter des paysages. Et en Île-de-France, on a la Seine, on a Paris, on a beaucoup de très beaux paysages, je dirais. Et puis après, vous avez aussi des personnes qui s'intéressent davantage aux canots classiques, donc des bateaux. Alors, on parle souvent des Riva, c'est un des constructeurs, mais il y a beaucoup d'autres constructeurs français. L'Île-de-France est une région qui était, dans les années 20-30, très riche en chantiers navals de bateaux qui étaient destinés soit à la plaisance, soit à la course. À l'époque, c'était beaucoup la recherche de vitesse, de performance. Hein. C'est le record de vitesse permanent qui était recherché. Et puis après, on a effectivement des courses, des gens qui font vraiment de la course, du racing. On a des teams de course. Ouais. Donc l'activité dominante en France, c'est le bateau. sur des coques, des catamarans, aéroplanes. Après, en France, il y a aussi du jet ski, il y a aussi des aéroglisseurs qui sont un peu plus confidentiels, le jet ski un petit peu moins, qui se pratiquent plutôt en mer pour le jet ski qu'en eau intérieure. Mais les courses de bateaux aujourd'hui ont lieu plutôt sur de l'eau intérieure, donc sur des fleuves, des rivières, voire des lacs.
Donc on va avoir l'occasion de développer tout ça dans la première partie de cette émission. Je vais saluer donc Vanessa. Bonsoir Vanessa, ça va ?
Bonsoir Philippe, très bien.
T'as pas envie d'aller faire un petit tour de...
Ah bah si, justement.
Pourquoi pas. Ouais. Et je vais saluer aussi Tania.
Bonsoir,
bonsoir Tania, bon tu vois, c'est bien, hein, omnisport l'émission.
Exactement.
Tu veux en savoir un peu plus sur le motonautisme. Bonsoir Marius, ça va ?
Bonsoir Philippe, bonsoir.
Toi tu as tout vu de l'actualité sportive.
J'ai tout regardé.
T'as eu un drôle de choix entre le tennis et la Formule 1 là. Et
j'étais en double écran, j'ai regardé les deux. Donc, comme
Ça, et puis on saluera donc Stéphane tout à l'heure, on peut le saluer, mais qui interviendra.
Bonsoir tout le monde.
Oui, qui a beaucoup de choses à nous dire donc, dans la dernière partie de cette émission concernant Roland Garros. Ça a été un sport olympique, le motonautisme, oui.
Écoutez, je ne le savais pas.
Je vous le dis, ça a été un sport olympique.
Comme beaucoup de sports, donc c'est le cas aussi du Yacht Motor Club de France. On est un club affilié à la Fédération Française Motonautique, que j'ai le plaisir de représenter ce soir. Le Yacht Motor Club de France a été un des clubs créateurs de cette fédération. Et effectivement, la fédération fait partie du mouvement sportif et notamment olympique, qui encadre, je dirais, beaucoup de nombreuses pratiques sportives. Ouais. De là à ce que c'était un sport olympique, je n'avais pas connaissance.
Il était sport de démonstration en 1900.
En démonstration, d'accord.
Et sport olympique en 1908.
D'accord,
oui, voilà, c'est la seule et unique fois qu'il a été sport olympique. Il pourrait le redevenir ?
Oh, écoutez, on peut en douter. On peut en douter. En tout cas, en l'état actuel des choses, parce que le motonautisme, ça vous a pas échappé que c'est un sport mécanique qui utilise des carburants fossiles. Donc, est un sujet qui est un peu controversé.
Alors, comment vous faites actuellement ?
Ben, écoutez, à la fois, le sport motonautique a toujours évolué. Toujours été dans l'innovation, dans la recherche de nouvelles technologies. Ouais. La vitesse, c'est aussi moins frotter sur l'eau. Donc, c'est moins on frotte sur l'eau, moins on consomme de carburant. Sur les dernières années, on est passé de moteurs 2 temps qui polluent un peu plus à des moteurs 4 temps. Mmh. Et on est en train de préparer des compétitions, des catégories électriques. Donc à la fois il existe aujourd'hui une catégorie qui s'appelle E1, qui est une catégorie dans laquelle il y a très peu d'équipes, c'est des catégories, il y a besoin de beaucoup d'argent, c'est plutôt des vedettes, des anciens tennisman qui sont propriétaires de écuries. Qui sont très médiatisés, mais qui ne sont pas du tout démocratisés.
Nadal
est propriétaire effectivement d'une écurie de course.
Oui, c'est ça.
Aujourd'hui, il n'y a pas d'écurie française. Il y a le team Monaco, alors qui n'est pas la France, mais ils ne sont pas très loin, qui cette année a créé une nouvelle équipe. Nous, on travaille plutôt sur une approche beaucoup plus démocratisée, qui est l'équivalent de la Formule 4, qui est la catégorie, la première catégorie qui est accessible à des équipes amateurs. Et qu'on transforme en électrique, donc on appelle maintenant la Formule 60 électrique, qui ont vocation à être accessible aux écuries actuelles, mais aussi accessible à des jeunes pilotes. Les jeunes pilotes sont dans l'air du temps, avec des valeurs environnementales différentes des aînés, qui aiment bien mettre la main dans le moteur, dans le cambouis, dans l'huile. Et il faut reconnaître qu'avec un moteur thermique, il y a des possibilités de réglage, de chercher de la compétitivité d'une certaine façon. Les jeunes sont plus habitués à des réglages liés, à des logiciels, avec de l'intelligence artificielle, avec de la régulation électrique. Et il y a vraiment de quoi se faire plaisir pour des nouvelles générations qui cherchent autre chose et des activités beaucoup plus décarbonées.
Ouais. Quelque part, c'est pas un peu frustrant quand même?
C'est la vie. Quand on parle de bateaux électriques à des anciens, ils regardent ça de travers pour un grand nombre. Ça se comprend. Mm-hmm. En même temps, il ne faut pas renoncer à tout ça. Parce que si on veut attirer des jeunes générations, si on veut attirer de nouveaux pilotes, il faut développer une culture motonautique.
Voilà. J'allais vous poser la question de la transmission entre les anciennes générations, entre guillemets, qui ont cette expérience-là, comme vous venez de l'évoquer. Et puis cette jeune génération, finalement, quel peut être le lien entre ces deux générations? Parce que il y a quand même quelque chose qui les rassemble. Donc finalement, entre ce qui peut aujourd'hui être considéré par les jeunes générations comme vintage, peut-être, et puis avec des valeurs différentes, mais aussi cette passion qui les unit, peut-être, les deux générations.
Alors, je pense que c'est indispensable pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en France, il y a une culture bateau qui n'est pas très développée.
D'accord.
Si on compare avec d'autres pays européens, la Hollande, l'Angleterre, il y a une culture bateau, alors sur les vieux bateaux, les vieux yachts, etc., qui est très, très ancrée dans leur culture. Sur le côté sportif, on va plutôt voir les Italiens. Ouais. Les Italiens et, ou les Suédois, les pays baltes, Lituanie, tous ces pays-là ont une culture du bateau extrêmement développée. Et cette culture, elle se développe par la connaissance de l'histoire des bateaux, l'évolution des technologies. Et puis, les jeunes générations, si on veut les attirer sur ce monde-là, il faut qu'ils connaissent cette culture. Et puis, nous, au sein du Yacht Motor Club de France, on soutient des teams qui courent sous nos couleurs, des teams d'anciens qui sont passés à l'électrique et des teams de jeunes qui travaillent sur des prototypes de bateaux. Ce sont des jeunes ingénieurs qui vont concourir au Monaco Energy Boat Challenge cette année à nouveau. Donc, on les soutient pour la troisième année. Et finalement, ils se rencontrent régulièrement. Ils parlent passion, ils parlent vitesse, ils parlent de l'adrénaline des courses sur l'eau. Et puis, aujourd'hui, travailler sur des bateaux électriques, ce n'est pas forcément les mêmes accélérations, ce n'est pas forcément les mêmes couples, etc. Et donc, le partage autour du choix d'hélice, de forme de carène éventuellement, ça fait partie de domaines sur lesquels les jeunes ont besoin de l'expérience des anciens. Parmi les plus anciens, certains restent attachés au moteur thermique, dont axe. C'est une compétition une catégorie qui existe toujours.
Oui, d'accord. Alors, vous êtes combien dans votre club ?
Alors, nous, on est une cinquantaine de membres.
Ah oui, bien.
Donc, des membres qui sont, pour certains, plutôt dans le domaine de la plaisance. Comme j'évoquais tout à l'heure, on fédère aussi des membres passionnés de vieux canots, qui restaurent des vieux bateaux, qui restaurent des vieux moteurs. Et certains étant des bateaux plutôt de plaisance, d'autres de compétition. Des bateaux qu'on fait notamment les 6 heures de Paris, une course mythique.
Mythique qui malheureusement a disparu.
Donc c'est une course qui a été créée par notre association, par le Yacht Motor Club de France. Les premières courses ont eu lieu en 1955. La course s'est arrêtée en 1989. Depuis, il y a eu une ou deux courses dans les débuts des années 90 sur Paris, mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de courses sur Paris. Et puis... Puis parmi nos membres, donc on a ces jeunes qui développent des prototypes électriques, on a donc un team de course qui essaie de relancer l'activité vraiment purement sportive. Il existe d'autres clubs en France qui ont continué de développer des écuries, des bateaux de course, ce qui était moins le cas. Donc on relance, mais on relance en version électrique.
Et la tranche d'âge ?
Oh, il y a de tous les âges.
C'est ça qui est intéressant. Vous avez beaucoup de femmes ?
On a peu de femmes. On a peu de femmes aujourd'hui. Ah. On essaie d'attirer la diversité des profils. Mais effectivement, les sports mécaniques, historiquement, attirent plus d'hommes que de femmes. Et on travaille en collaboration avec d'autres associations qui sont aussi en région, notamment le Cercle du Motonautisme Classique. On a organisé ensemble l'année dernière un grand rassemblement de vieux canots sur Paris. On a fait un tour de Paris en parade avec une trentaine de vieux canots.
Ah, ça devait être sympa,
C'était très beau, il y a eu de très belles images, il y a eu quelques reportages. C'était à l'occasion du centenaire du meeting de la Seine, qui était la première course motonautique sur Paris en 1926. Et puis, les activités vraiment sportives de racing, elles se font pas sur Paris. Nos jeunes, des étudiants, eux, font des essais sur Paris, mais les courses ont lieu à Monaco. Et puis, en France, vous avez d'autres clubs qui sont dans des villes comme Rouen, Caen, Chalon, Mâcon, Albi, etc. Et je dois en oublier, Chalon-sur-Saône, qui sont des clubs qui continuer la course monotique, qui sont organisateurs de courses Formule 4 en France et qui ont des écuries, et notamment les écuries qui vont concourir au niveau international sur la Formule 2 et la Formule 1.
Oui, et il y a eu les 6 heures de Rouen.
Alors, les 6 heures de Rouen.
Qui ont disparu, et j'ai lu que c'était reparti en Eure-et-Loire.
Alors, non. Les 24 heures de Rouen, effectivement, se sont arrêtées et ont été cette année organisées à Pause. Ça s'appelait
En Normandie. En Normandie, dans l'heure.
Ça s'appelait les 24 heures de Normandie. Donc c'est pas une course de 24 heures continue, c'est trois sessions. Alors il y a une session d'une douzaine d'heures et deux sessions de 6-7 heures qui au total doit faire 24 à peu de choses près. Et notamment une course de nuit qui était le côté un peu mythique de des 24 heures de Rouen. Les 24 heures de Rouen, c'est la deuxième course mythique avec les 6 heures de Paris, donc une course qui durait 6 heures. Aujourd'hui, il existe encore des courses d'endurance qui font 2 heures, 3 heures, 6 heures, ça dépend un peu des organisateurs. Et puis, il y a les courses de vitesse qui sont plutôt sur des durées de... Enfin, qui, la durée, c'est 20 minutes.
Oui, alors justement, il y a 3 disciplines dans votre sport.
Alors c'est ça, donc F4, F2, F1. Ouais. Ouais. Et puis en France, il y a des catégories qui ont un peu disparu, qui sont des catégories plutôt pour les juniors, qu'on appelle GT15, GT30, qu'on trouve beaucoup en Suède, dans les pays baltes, que je veux dire, en Italie. Et il y a des championnats nationaux et européens dans ces catégories. Malheureusement, ça a disparu en France. C'est une catégorie qui est beaucoup plus accessible, parce que ce sont des plus petites coques en V, moins dangereuses, sur des faibles motorisations. Nous, on aurait un peu comme ambition, comme rêve de relancer, mais en électrique, bien évidemment, quitte à relancer, autant partir sur, sur des catégories qui correspondent aux valeurs des usagers, des pratiquants d'aujourd'hui, et qui correspondent à ce que les collectivités ont dans leur politique environnementale dans les territoires.
Donc vitesse inshore, offshore et puis endurance.
Voilà, offshore, il y a peu de pratiquants. En France, il n'y a pas de circuit du tout en France. On a une catégorie, il y a une catégorie offshore qui est beaucoup plus pratiquée aux États-Unis, au Moyen-Orient, un petit peu en Italie et en Suède, mais il y a très peu de pratiquants. Il y a une catégorie qui est un petit peu plus démocratisée, qu'on appelle le Thundercat, qui est issue d'une pratique en Afrique du Sud, qui ensuite s'est c'est un peu propagée dans d'autres pays. Ce sont des petits catamarans, gonflables, enfin pneumatiques, style semi-rigide, mais en mode catamaran, qui à l'origine étaient des bateaux plutôt de sauvetage et qui sont devenus des bateaux de course de vagues. Donc c'est assez intéressant à voir, les bateaux qui partent comme ça face aux vagues. C'est encore assez peu pratiqué en France, mais il y a quelques écuries. Et puis parfois, on voit des démonstrations sur des plans d'eau intérieurs.
Et obligé de se spécialiser. Donc quand on commence le motonautisme, il faut choisir sa discipline, quoi.
Oui, parce que c'est quand même des activités qui sont technologiques. Ouais. Donc il faut connaître les technologies et l'environnement. C'est des pratiques qui sont techniques. Il faut connaître le moteur, il faut connaître la régulation électrique quand on est en électrique. Sur les Thundercats, il y a des catégories qui sont libres. Donc là, on peut trafiquer son moteur comme on veut, on peut trafiquer ses carburants, etc. C'est des catégories très particulières. Si on n'est pas dans ces environnements, on ne connaît pas. Et puis sur les catégories, donc la catégorie la plus classique est la catégorie Formule 4, y a des règles de course, y a des tactiques de course. Les choix d'hélice se font en fonction de la nature des plans d'eau. Le pilotage sont des coques aéroplanes. Donc, on ne m'a pas posé la question de savoir si on avait des foils, mais dans nos catégories, même en électrique, on n'a pas de foils, parce que ce sont des coques qui sont faites pour s'appuyer sur l'air et décoller. Le bateau vole plus ou moins en fonction de l'angle d'inclinaison entre le moteur et la coque. Et donc, c'est bateau qui plane. Et cette capacité de planer va dépendre du vent, des vagues, du clapot, etc. À la fin, il n'y a pratiquement plus que l'embase du moteur et l'hélice qui sont dans l'eau. Et donc, voilà, c'est assez spectaculaire à voir. Mais c'est vraiment une spécialité qui nécessite d'avoir de la pratique, d'avoir de l'expérience. Vous évoquiez tout à l'heure, Vanessa, le partage avec les anciens.
Oui.
Bah, clairement, nous, nos jeunes pilotes qui étaient à Albi en électrique ce week-end, ont échangé avec les anciens qui pratiquent, parce que connaître un plan d'eau, connaître l'effet du vent sur une coque, c'est pas le type de motorisation qui joue.
Ah oui, c'est sûr. Ah oui. Et alors, qui répare les bateaux? Est-ce que c'est le pratiquant? Est-ce qu'il a une équipe, un staff avec lui?
Alors,
des copains qui l'aident?
C'est ce que j'ai commencé à expliquer d'ailleurs, je me suis interrompu. Effectivement, il y a un staff, il y a des mécaniciens, il y a des spécialistes de la coque, il y a aussi parfois des professionnels qui les accompagnent, bien évidemment. Ce sont des résines, c'est du carbone, c'est des sujets sur lesquels il faut avoir quand même une certaine connaissance. Le fait de réparer les bateaux dans les règles de l'art pour pas affaiblir la structure du bateau, c'est clé. Ce sont des coques qui sont homologuées par l'UIM, hein, l'Union internationale motonautique. Il en va de leur sécurité, il en va aussi de la pérennité du sport. Hein. S'il y avait des accidents graves tous les jours, bah, le sport serait interdit. Donc il y a un staff technique sur la coque, il y a des motoristes. Et puis en compétition, la sécurité, c'est aussi celui qu'on appelle le radioman. Le pilote, quand il est dans la course, il y a beaucoup d'éclaboussures, il a une visibilité qui est extrêmement réduite. Il est un peu aveugle sans son radioman. Ce radioman, c'est quelqu'un qui est sur le quai, qui voit la course, qui est à distance, lui dit d'aller à droite, à gauche, d'accélérer, de ralentir. D'accord. Pour éviter les accidents et puis pour travailler sur les tactiques de course. Donc oui, c'est vraiment une équipe, c'est un staff, c'est pour ça que ce sont des teams complets qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui vont de course en course tous ensemble.
Et une saison, ça dure de quand à quand, de février, mars à octobre, novembre? Alors, peut-être, ou on va même à l'étranger dans les pays chauds,
un petit peu partout, c'est lié à la météo, hein. Saison commence début mai, se finit souvent début septembre dans les premières 15 jours. C'est assez court, et c'est pour ça que le challenge aujourd'hui, c'est d'essayer d'augmenter le nombre de plans d'eau qui acceptent des courses et qui permettent de développer plus de compétition. Bien souvent aujourd'hui, les compétitions, enfin dans le cadre du championnat, il y a plusieurs courses sur un week-end, donc plusieurs étapes qui rapportent deux fois des points pour augmenter le nombre d'épreuves, parce qu'on n'a pas encore assez de lieux qui acceptent les courses motonautiques. Il y en avait beaucoup plus par le passé. Malheureusement, ça s'est fortement réduit. Et donc c'est assez réduit dans le temps. Et les courses européennes sont globalement sur les mêmes saisons. Les compétitions F2, F1 qui vont un peu plus à travers le monde, là vont sur les 5 continents et choisissent les lieux en fonction des météos.
Et sur l'Europe, quels sont, vous avez parlé d'Italie, j'imagine que c'est l'un de vos, et de la Suède me semble-t-il, c'est l'un de vos principaux concurrents, sachant que, comme vous l'avez souligné, c'est pas forcément beaucoup développé en France, mais c'est peut-être eux sur l'aspect européen qui organisent le plus de compétitions, ou les Pays-Bas aussi, vous
l'avez dit. En compétition, les pays qui sont organisateurs. C'est la Belgique.
La Belgique, d'accord.
Il y a une compétition à Mons avec une belle équipe là-bas qui concourt aussi en France. C'est l'Italie, c'est la Lituanie et c'est la Pologne.
D'accord.
C'est les principaux pays organisateurs. Okay. Malheureusement, pour les mêmes raisons un peu qu'en France, il y a des pays qui ont disparu de la compétition, comme l'Allemagne. Il n'y a plus de courses, il n'y a plus d'équipes en Allemagne. La Suède a beaucoup de représentants, mais n'organise pas de compétition.
Est-ce qu'ils ont un modèle, je dirais, économique ou organisationnel qui peut être, en quelque sorte, non pas transposable, mais peut-être inspirant pour la France ou pour des pays qui ont un petit peu été, je dirais, écartés en raison de tout ce que vous aviez évoqué précédemment?
Les pays qui ont gardé une forte activité et qui ont des sponsors et qui ont des pouvoirs publics ou des fédérations qui ont de l'argent pour pouvoir accompagner les équipes sont les pays qui ont gardé cette culture motonautique.
D'accord.
Donc on a l'Italie, on a les Pays-Baltes, on a la Pologne, on a la République tchèque. Il y a aussi quelques écuries en Angleterre. C'est vraiment ces pays qui ont gardé cette culture et pour lesquels... C'est un sport, je dirais pas forcément national. Lituanie, c'est pratiquement un sport national. Et donc, il y a de l'argent. Parce qu'il y a du public.
Ouais. D'accord.
Alors, justement, c'est une question que j'avais posée. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent dans le motonautisme quand on arrive à un bon niveau? Et par exemple, est-ce que nous, on a les Françaises et les Français qui sont parmi les meilleurs dans les grandes compétitions? Malgré le peu de moyens.
Ouais, non, dans les championnats de France, gagner de l'argent, non. Au mieux, les équipes équilibrent les budgets et pratiquent un sport et leur passion en équilibrant les budgets. Le circuit F1 est un circuit semi-professionnel, donc je pense que là, les pilotes doivent être rémunérés. Je n'ai pas connaissance, mais oui, on est sur un circuit qui est déjà beaucoup plus professionnel. En Formule 2, ça doit être un petit peu ce qu'on appelle du semi-professionnel, mais il y a beaucoup plus de frais. C'est des compétitions européennes, donc il y a du déplacement, et il faut des sponsors, il faut qu'il y ait de l'argent.
Oui. Et on se déplace avec sa caravane, son bateau, pour transporter son bateau, sa remorque.
Oui, ce sont des remorques, ce sont des camions. Les bateaux sont quand même assez protégés, assez fragiles. Donc oui, c'est toute une organisation.
Ça aussi, ça fait partie du coup de déplacement. Hein, on est
absolument, ouais. Absolument. Et c'est pour ça que certaines écuries sollicitent des clubs comme les nôtres pour les accompagner et que tous ensemble, on est à la recherche de sponsors et en particulier pour la transition électrique, même si les évolutions technologiques font partie de l'ADN du sport motonautique depuis tout le temps. Là, actuellement, effectivement, on est aussi en recherche de sponsors pour passer le pain de l'électrique.
Alors Jean-Jacques, si tout ce que vous avez dit, ça suscite des vocations, on vient vous voir quand ? On vous rejoint quand pour la nouvelle saison, pour rejoindre votre club ?
Eh bien écoutez, on a un site internet, oui. on essaie de développer de l'activité sur les réseaux sociaux, et puis on est sinon aller du bord de l'eau.
Ah, c'est bien en plus.
On n'est plus les gestionnaires de la marina où nous sommes installés, mais nous sommes accueillis par le nouveau gestionnaire, et donc on a un lieu très agréable, il y a un beau restaurant également pour... Ouais. Pour les accueillir.
Et le prix de la licence, c'est de combien total? Parce qu'on parlait du coût que ça coûte, mais il y a quand même une licence, une cotisation.
Alors, être adhérent au Yacht Motor Club de France, actuellement, ce n'est pas une grosse cotisation, c'est 140 euros par an. Après, les licences des pilotes, ça dépend de la catégorie dans laquelle ils sont et des pratiques nationales ou internationales.
Très bien, vous aimez beaucoup de sport aussi, on voit.
Absolument.
Comme tous les sports, comme nous. Donc on va écouter le journal des sports de Marius, et vous allez voir, il va commencer par le mythique Grand Prix Monaco, même si pour moi l'exploit du week-end, ce sont les filles du hand de Metz.
Voilà. Oui, mais on va en parler. Et on ouvre ce journal des sports justement en Formule 1, et c'est Kimi Antonelli qui a remporté ce dimanche le Grand Prix de Monaco.
On prend les mêmes, on recommence.
Le pilote Mercedes décroche sa 5e victoire consécutive cette saison. Lewis Hamilton termine à la 2e place et devant le français Isaac Hadjar, 3e, grosse performance. Au classement du championnat du monde, Antonelli conforte son avance avec 156 points. Il devance Hamilton, maintenant 2e, avec 90 points. George Russell est 3e avec 88 points. Le jeune italien continue donc de dominer largement ce début de saison 2026. En MotoGP maintenant, le Grand Prix de Hongrie a été remporté par Marc Marquez. L'Espagnol s'impose devant Pedro Acosta et Francesco Bagnaia, confirmant son retour en forme cette saison. Au classement du championnat du monde, Marco Bezzecchi est toujours en tête avec 180 points. Il devance George Martins, 160 points, et Fabio Di Antonio, 138 points. Maintenant, le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes est bien lancé.
C'est
avec...
l'ex-Dauphiné libéré.
C'est l'ex-Dauphiné libéré, ouais, exactement. Et bien lancé avec deux premières étapes déjà discutées. Lors de la première étape entre Visil et Saint-Ismier, c'est Alex Baudin qui s'est imposé en solitaire après une course animée en montagne. Et la deuxième étape, longue et exigeante, c'est la plus longue du parcours. C'est entre Saint-Martin-le-Vinou et le Puy-en-Valais, a été remportée par
Velay.
A été remporté par le Danois Anto Charming. Au classement général, c'est toujours Alex Baudin qui conserve le maillot de leader après ses deux premières journées de course. En rugby maintenant, en top 14, la 26e et la dernière journée a livré des résultats importants pour les clubs franciliens. Le Stade français, malheureusement, s'est incliné de justesse sur la pelouse de La Rochelle 27-22, tandis que le Racing 92 a signé une belle performance en s'imposant contre Toulouse 31-20. Au classement final, le Stade français termine 3e, juste devant le Racing 92 qui finit 5e. Ils sont tous les deux du coup qualifiés pour les phases finales. Les barrages justement du top 14 se joueront le week-end du 13 et 14 juin. Le Stade français affrontera La Rochelle, tandis que le Racing 92 sera opposé à Pau. Et en Pro D2, c'est Vannes qui est sacré champion et qui décroche
qui remonte.
Sa montée en top 14 après sa victoire en finale.
Alors on va rappeler que c'est Toulouse et Montpellier qui sont d'office qualifiés pour la demi-finale. Et puis du coup, Bordeaux-Bègles, le champion d'Europe, out.
Eh oui, 8e, il me semble.
Ça a été la grosse surprise du week-end.
Et on continue en handball. Star League, la fin de saison de Star League a été marquée par les 29e et 30e journées. Lors de la 29e, le PSG s'est imposé sur le fil à Chambéry 29-28 au terme d'un match très disputé. Dans le même temps, Tremblay s'est incliné à domicile face à Saint-Raphaël 36-44, un match très offensif. Et pour la 30e journée et dernière journée, le PSG a confirmé son titre en dominant Tremblay 35-31. Concluant sa saison de leader incontesté. Le PSG termine donc champion de France, tandis que Tremblay finit 8e. Et là, c'est la grosse performance. Ligue des champions féminine, le Final Four de la Ligue des champions féminine a réuni les meilleures équipes européennes avec deux clubs français engagés, Metz Handball et Brest. En demi-finale, Metz s'est imposé face à Bucarest 32-27 pour décrocher son billet pour la finale. Dans l'autre match, malheureusement, Brest a été battu par Győr 31-30, hein, très très serré. Et du coup, en finale, hein, Metz a réalisé un exploit en s'imposant face à Győr 31-29, remportant ainsi la Ligue des Champions
féminine.
C'est un sacre historique pour le club messin. Ouais. Et en petite finale, il faut en parler quand même, dans le match pour la troisième place, Brest s'est malheureusement aussi incliné face à Bucarest, terminant au pied du podium. Après, tout de même, un beau parcours européen.
Ce qui est assez remarquable, c'est que Metz a gagné la Coupe de France, il gagne la Ligue des Champions, et Brest les bat sur, en championnat. Ils ont le même nombre de points, je crois se joue au match particulier.
C'est les deux équipes qui ont dominé largement cette saison. Et on continue en basket, en NBA. Hein. La finale oppose les New York Knicks face aux San Antonio Spurs. Pardon. Après deux matchs à l'extérieur, les Knicks mènent la série 2-0 grâce à deux victoires serrées 105-95 puis 105-104. Les Spurs sont maintenant désormais dos au mur puisqu'ils vont jouer les deux matchs suivants à New York. Et en Betclic Elite, on a les demi-finales. En championnat de France, les demi-finales sont très discutées puisque
nos clubs franciliens vont bien aussi.
Puisque Monaco, par contre, mène la série contre Nanterre 2-1. Cependant, Paris mène la série aussi 2-1 hein, contre Cholet. Donc Paris Basket et Monaco prennent donc un léger avantage hein, pour les demi-finales et se rapprochent d'une potentielle finale, même si rien n'est encore joué.
C'est au meilleur des 5 matchs. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est au meilleur des 5 matchs.
Et c'est un peu un regain quand même pour le Paris Basket suite à la période de transition qu'il a connue après être monté en Ligue 1.
Bien sûr, tout à fait. Et pour finir, hein, on va parler un peu de football. Hein, pour fermer ce journal, l'équipe de France a été surprise lors de son premier match de préparation à la Coupe du Monde en s'inclinant face à la Côte d'Ivoire 2-1 à Nantes.
C'est une bonne chose.
Pourtant, devant, grâce à un but de Cherki, les Bleus ont ensuite craqué en seconde période et ont concédé des buts, notamment de Guéla Doué, le frère de Dédésiré Doué. Il s'agit de la première victoire des éléphants face à la France.
Rodage.
Ouais. Mais justement, les hommes de Didier Deschamps dissouteront leur dernier match de préparation ce lundi là à 21h. Face à l'Irlande du Nord, au stade Pierre-Mauroy de Lille, avant leur entrée en lice en Coupe du Monde. Parmi les autres nations favorites du prochain mondial, on a l'Argentine qui s'est imposée face au Honduras, le Brésil qui a battu l'Égypte, l'Allemagne qui a dominé les États-Unis, un des pays organisateurs, l'Angleterre qui s'est également imposée, le Portugal également face au Chili, tandis que l'Espagne a fait un match nul contre l'Irak. Et pour fermer ce petit journal des sports, j'ai une petite pensée pour Christian Eriksen,
qui a été
victime malheureusement d'un autre arrêt cardiaque, rappelant des mauvais souvenirs de l'Euro 2021.
Il a cependant
rassuré sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il allait bien et qu'il maintenant se concentrait sur sa convalescence.
Voilà, et ben t'avais fini cet abondant journal des sports. On te remercie, Marius. En parlant foot, on va justement en parler, puisque à l'initiative de l'association Adapta Team, qu'on avait reçu à ce micro en mars 2025, est venu samedi matin dans leurs locaux l'ancien entraîneur adjoint du Paris Saint-Germain, Denis Troche. Il est maintenant devenu coach. Alors, on l'a interviewé, mais vous allez voir, c'est une matinée très intéressante qu'on a donc suivie et qui pourrait aussi s'appliquer à la vie de tous les jours. On aura Denis Troche la saison prochaine donc à ce micro. On l'écoute auparavant répondre à nos questions. Denis Troche, en tout cas une matinée bien sympa pour l'association Adapta Team.
Oui, c'était intéressant pour beaucoup de raisons. La première, c'est qu'il y avait un public nombreux, attentif, réactif et très pertinent dans ses questionnements. Et donc les échanges ont été hyper intéressants pour tout le monde, pour eux, pour moi, pour nous, ce qui est appréciable dans ce genre d'intervention.
Alors, est-ce que les problématiques sont les mêmes qu'on fasse un sport collectif ou un sport individuel ?
Oui, bien sûr. La problématique, c'est la performance individuelle de chacune des personnes, qu'elle soit en individuel ou dans un groupe. Parce que pour que le groupe grandisse, il faut aussi faire grandir la personne. Donc, il y a des situations qui sont identiques. Pour autant, bien entendu, quand on travaille dans un groupe, il est nécessaire de faire attention aux autres, que les autres fassent attention à nous, qu'on ait des relations qui sont partagées, savoir quelle est la finalité de l'action que l'on mène ensemble et qu'elle soit vraiment reconnue par tous, et derrière y mettre un engagement total. Et on sait que par le biais de cette équipe, chaque individu va pouvoir grandir, ne serait-ce que pour jouer au football et gagner un match. Il faut être 11. Si on n'est pas ensemble, on a moins de possibilités, de chances. Et si on est seul, on ne peut même pas commencer le match. Les règlements nous l'interdisent.
Et puis oser, et puis s'aimer soi-même, c'est ça qui est important.
Ah, oui, alors c'est la première des choses. Ouais. La première des choses, c'est penser à soi, rien qu'à soi, essentiellement à soi, pour le bonheur et le plaisir des gens que l'on aime ou qui sont autour de nous. Donc ça, c'est aussi un privilège, une nécessité de penser à soi pour être le plus précis et le plus juste possible, en n'oubliant absolument pas les autres.
Denis, est-ce que les valeurs du sport, on peut, pareil, les mettre dans les valeurs de l'entreprise? On retrouve des formes de coaching complètement identiques?
Alors, les valeurs sont les mêmes. Après, c'est le curseur qui va être déplacé sur les différentes valeurs. Mais on sait très bien qu'une valeur, c'est quelque chose que l'on doit s'approprier. C'est pas quelque chose qu'on désigne ou que l'on met en avant pour qu'elle soit propre et qu'elle soit reconnue dans le groupe ou dans l'entreprise ou dans un club. Il est nécessaire que l'on s'approprie ces valeurs. Et c'est là où l'appropriation des valeurs est compliquée, parce qu'il y a des contraintes, des choses qui nous plaisent pas. Et donc, c'est simplement essayer de trouver l'endroit où la valeur, le curseur va aller sur une valeur bien définie. Mais les valeurs sont les mêmes, bien entendu.
Et puis, on s'aperçoit que tout part d'un cadre.
Oh bah, ça, c'est essentiel. Oui. Oh bah, là, entre, je dis toujours qu'il y a un acronyme qui est INA. I, c'est imposé. N, négocié. A, animé. Dans 99% des cas, les gens disent que le plus important, c'est d'animer, de négocier avec ses équipes. Oui, mais il est nécessaire de mettre un cadre au départ. Donc la première chose, c'est cadrer, puisque s'il n'y a pas de règles ni de lois, il n'y a pas de hors-la-loi. Ça veut dire que c'est l'anarchie, ça veut dire que les gens peuvent toujours contester le recadrage qui pourrait être mis. Donc on dit recadrage, c'est qu'il y a déjà un cadre. S'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de recadrage, donc il peut y avoir, tout peut partir à volo.
Alors vous avez beaucoup œuvré dans le monde du foot, mais aujourd'hui, pas que, il y a le monde du sport en général et l'entreprise.
Oui,
à travers vos coachings.
Oui, le sport, l'entreprise, mais aussi les politiques, mais aussi, je peux accompagner individuellement des petits rats de l'opéra ou des joueurs de poker professionnels, comme je peux accompagner un gamin qui passe le brevet des collèges ou des sportifs de haut niveau qui ont été champions olympiques aux derniers Jeux ou champions du monde ou qui sont devenus champions de leur propre monde, mais pas forcément champions du monde, parce que ça, c'est une autre histoire, c'est éphémère. Le meilleur titre qu'un champion puisse ou qu'une personne puisse avoir, c'est vraiment tendre vers le titre de champion de son propre monde.
Dernier petit mot, je m'en voudrais, vous l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au PSG? Pourquoi ce double titre de champion d'Europe?
Alors, qu'est-ce qui a changé? Je pense que il y a eu beaucoup de choses qui ont permis au club aujourd'hui d'être doublement champion d'Europe. Voire triplement, parce qu'il y a déjà une victoire, mais pas dans la même coupe, la Champions League deux fois. Qu'est-ce qui a changé? Ben, une chose assez simple, c'est qu'on a pris conscience que le football, ça se jouait à 11, que le fait de jouer à 11, c'était pas mettre les individualités à l'écart, mais c'était mettre le football en avant pour que tout le monde puisse comprendre que c'est un groupe. Donc Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, l'a fait très très bien, il a insisté là-dessus, avec l'aide de ses dirigeants et la compréhension des joueurs qui, sur le terrain, ont compris qu'ensemble, ils pouvaient réussir à faire quelque chose. C'est-à-dire, individuellement, les joueurs n'étaient pas champions d'Europe, ou peu. Individuellement, l'entraîneur a été champion d'Europe, mais pas avec le Paris Saint-Germain. Et même chose pour les dirigeants. C'est-à-dire prendre conscience qu'il est possible, ensemble, en étant alignés sur une vision collégiale, de pouvoir gagner des choses que individuellement, qu'on ne peut pas. Et aujourd'hui, on a le Paris Saint-Germain, qui n'est plus un club qui a gagné la Coupe d'Europe, mais c'est une institution, puisque tout le monde est aligné, ça reste une histoire réelle, vécue doublement et deux années de suite, ce qui est hors norme.
Merci Denis, et puis vous viendrez dans nos studios la saison prochaine, faire une émission complète.
Alors, vous savez très bien que si on m'invite pour boire un café, il n'y a aucun problème, je viens avec grand plaisir.
Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous pour l'écoute.
Eh bien voilà, donc Denis, le rendez-vous est pris, je vous rappelle, et merci en tout cas à l'association donc Adaptateam, association donc des personnes au handicap, mais pas que, qui est aussi valide, qui peuvent pratiquer. Donc le cross-training, c'était une matinée en tout cas bien sympa et bien fructueuse. Allez, on va maintenant avec Tania prendre un petit peu des nouvelles des Comrades de Paris. Tania, donc bonjour.
Bonjour.
Bon, alors il s'est passé quoi depuis ta dernière venue dans nos studios?
Depuis la dernière venue, ouais. nous sommes champions de France.
Oui, ça c'est une bonne nouvelle.
Voilà. Voilà. Champion de France en 18 à 7 avec les mousquetaires de Châtenay-Balabry avec lesquels nous sommes partenaires.
Qui était venu à ce micro la saison dernière.
Oui, ou il y a 2 ans avec Duncan. Mmh.
Oui.
Et puis on a fait un partenariat ensemble. Nos deux teams en U18 et ça fonctionne très bien tant en attaque qu'en défense. Nos jeunes s'entendent très bien et ça a mené à cette victoire dont nous sommes très fiers. Bah très fiers de nos U18 des deux côtés.
C'est aussi une belle reconnaissance pour votre club. C'est une bonne. Tous les dirigeants qui s'investissent, je pense que c'est une belle joie quand même.
De exactement, voir que, exactement. Ben, tout le monde est content, comme tu peux l'imaginer. Pour une ouverture d'association au mois de septembre, gagner un championnat dès la première année, je pense qu'on peut être assez fiers d'eux. Donc et du coaching staff et de...
Donc, c'est des jeunes qui vont repartir avec les Cobras.
Bien sûr.
Prochaine. Oui, non, mais...
Logiquement.
Oui.
Après, on recrute toujours. On est toujours en période de recrutement. Oui. Mais après, chaque jeune va dans le club où il a envie d'aller. Hein.
Alors, justement, si on veut venir vous rejoindre, ça va être l'époque maintenant.
Voilà, on peut commencer dès maintenant. Alors, il faut aller sur notre Instagram Cobra de Paris, Cobra avec un S de Paris. Et dessus se trouve le lien du mail pour nous contacter et nous poser toutes les questions utiles.
Toute tranche d'âge, tout sexe confondu.
Exactement. Donc, en football américain, section senior, U18, U15, flag football et cheerleading aussi. Danse et cheerleading, on se met dedans. Oui, bien sûr.
D'accord. Bon, c'est pas une activité un petit peu comme le motonautisme qui peut faire peur aux parents ? Parce que c'est un sport de contact quand même.
C'est un sport de contact qui fait peur, mais pas forcément aux parents. En général, nous avons les enfants qui viennent, les mamans qui les inscrivent et les papas qui ont peur.
Ah, c'est papa qu'on peut, tiens.
Oui.
Ah bah ouais,
comme quoi. Oui, donc une fois que les enfants ont essayé, que les parents ont assisté, qu'on les, on les sécurise un peu sur tout ce qu'on a pour les rassurer, toutes les protections qu'on a, toutes les...
Oui, alors justement, tu voulais agir, aussi intervenir aujourd'hui, sur le problème de la sécurité, le domaine de la sécurité.
Voilà, le domaine de la sécurité, donc on parle évidemment des casques. Les casques, chaque club achète les casques où il veut.
C'est comme le motonautisme, il faut être bien équipé.
Il faut être bien équipé, ça a un coût. Ça a un coût, donc nous...
Combien
chez, ça dépend, 700 euros à peu près. À
une
peu
fourchette.
Près. Une fourchette, mais nous on a mis des accessoires en plus, la peinture, les grilles, tout ça, ça nous revient à beaucoup plus cher que ça. Mais aux environs de 700 euros, vous pouvez avoir un casque, voilà. Donc, on met une caution, évidemment, sur ces casques. Il faut savoir qu'il y a des épaulières aussi. Des épaulières, selon ce que vous êtes en attaque, en défense, en ligne, vous avez des épaulières différentes. On peut y rajouter une backplate, mais ça, ce n'est pas forcément obligatoire. Un protège-dents.
Oui, ça me paraît logique.
Voilà, les 7 pattes de protection au niveau des membres inférieurs. Un au niveau du coccyx, les hanches, les cuisses et les genoux. Il faut savoir qu'au niveau de la protection... la formation des arbitres est très importante parce qu'ils sont garants de la sécurité pendant les matchs. Donc la Fédération française de football américain à laquelle nous sommes affiliés forme des arbitres tous les ans. Donc on en recrute aussi dans notre club. La Fédération forme aussi des coachs. Donc pour l'instant, il y a 2 niveaux de coaching, BF1 et BF2. Et pour participer au championnat, vous devez avoir des BF2 et des BF1 présents sur la sideline. Sinon, il n'y a pas de match et... voilà, on est forfait. Dans les clubs aussi, mis à part les coachs, vous pouvez aussi avoir sur les matchs des PSC1.
C'est-à-dire ? Alors, en public ?
En public, ce sont des gens qui sont formés au premier secours.
Ah oui ?
Comme les brevets de secourisme auparavant, à mon époque. Sur les matchs de D1, par exemple, ce sont des vrais médecins qui viennent sur les matchs. Et tout ça, ça fait partie du cahier des charges, selon... Vous vous êtes affilié, vous pouvez...
Mais je pense que le protocole commotion, c'est comme pour le rugby, il existe.
Ah, bien sûr, il est hyper important. Il est hyper important, contrairement au rugby où il y a des chocs aussi, nous on a des casques pour protéger et pour pallier à ça. On ne peut pas dire que ça n'arrive jamais, c'est pas vrai, mais il y a un protocole commotion. Il y a des médecins ou des PSC1 sur le terrain en première ligne et à la suite de ça... les formations des coachs aussi, parce que si les coachs forment bien les joueurs, il y a des gestes qui ne doivent pas se voir sur les terrains. Si le coach est mal formé, si les jeunes font un petit peu ce qu'ils veulent et de façon non sécuritaire, il y a plus de risques d'accidents. Il y a des accidents au football américain, comme dans tout sport de contact, c'est un sport de contact. Il faut juste savoir pallier, sécuriser, protéger et former.
Ensuite, tu voulais remercier un petit peu tes partenaires.
Voilà, exactement.
Il y a d'abord des actions qui vont être faites avant de remercier les partenaires. Donc, tu peux nous parler de tes différentes actions
qui vont
avoir lieu là, dans le courant de ces semaines et de ces mois qui arrivent.
Alors, justement, ça allait avec le remerciement des partenaires. Mmh. L'un des partenaires qui a été l'un des premiers au courant du projet, c'est justement Montpellier FM avec M. Mendy.
C'est pour ça que tu es là.
Voilà. Avec M. Mendy, qui a eu la gentillesse de me faire confiance pour avoir un partenariat avec les Cobras de Paris, que tu m'as présenté d'ailleurs, puisque c'est toi qui l'as présenté, et je t'en remercie. Et avec lui, justement, nous allons participer à la fête, à une fête dans le 13e arrondissement, qui aura lieu samedi prochain, samedi 13 juin.
Il y a déjà des affiches, Daniel. Voilà,
exactement.
Partout, là, il y a des affiches.
Voilà, c'est une fête de quartier qui aura lieu de 14h à 22h avec des ateliers, des concerts, DJ set, entrée libre, gratuite. Il y aura des stands un peu partout. Ça se passera dans le 13e arrondissement, samedi 13 juin, de 14h à 22h. Et nous serons nous-mêmes les Cobras de Paris au 9 bis rue du Chevaleret pour représenter notre association avec des démonstrations de football américain.
Carrément dans la rue qui est bloquée, il y aura, un petit tapis, un pseudo-terrain.
On va s'organiser de façon à pouvoir faire des ateliers en football américain ou en flag football selon ce dont nous aurons à disposition. Et j'espère que beaucoup de monde viendra essayer tenter le football américain avec nous dans le 13e arrondissement.
Et de quelle heure à quelle heure?
De 14h à 22h. L'événement Montpellier FM, ça dure de 14h à 22h, mais les activités s'arrêtent vers 17h30, 40, pour laisser place à des concerts organisés par Montpellier FM.
Et puis c'est aussi une façon de recruter.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, on distribuera des flyers, on donnera des informations, notre site, etc. Donc, j'ai d'autres partenaires aussi.
Et tu as d'autres actions aussi dans les mois qui arrivent?
Dans les mois qui arrivent, et ben justement, on est en train de... Tout ça, c'est de la mise en place avant la rentrée. Essayer d'aller faire un tour dans les hôpitaux, dans les écoles,
hyper
tout ça.
Important.
Hyper
important.
Voilà, parce que comme je le dis souvent, moi, le sport et la santé, c'est intrinsèquement lié, puisque je suis infirmière aussi. Donc, j'essaye d'allier les deux. Donc, les hôpitaux, ça sera un challenge aussi à faire. C'est pour ça que nous, au Cobra de Paris, on n'est pas fermé à un arrondissement en particulier. On remercie la mairie de Paris qui nous a attribué des créneaux. Il faut savoir qu'il y a un seul terrain de football américain dans tout Paris. Il est dans le 15e. Donc, la mairie du 15e nous a attribué des créneaux et nous permet de participer à des matchs en saison sur le terrain qui est dans le 15e, qui est le seul tracé justement. Donc on remercie la mairie des sports du 15e arrondissement pour cela. Nous sommes aussi partenaires de Lupus France, une association d'une pathologie auto-immune qui est de plus en plus connue et qui fait parler d'elle, où les personnes qui en sont atteintes sont handicapées, mais pas forcément en fauteuil roulant. Donc, ce sont des personnes qui souffrent énormément au niveau des os, qui ont des particularités de souffrance qui ne sont pas visibles. On appelle ça une maladie invisible. Donc, ça touche le cœur, les poumons, les organes, pas mal de petites choses. Et ça ne se voit absolument pas. J'en suis atteinte d'ailleurs et ça ne se voit absolument pas. Vous avez de la chimiothérapie, plein de choses qui vous handicapent un peu la vie. Donc, je soutiens cette association pour qu'un plus grand nombre de personnes soient... touché et informé de cette pathologie. Je voudrais aussi remercier un invité que j'avais pris la dernière fois qui s'appelle Marcangelo Souma,
qui était venu avec moi. Consultant chez nos amis de Bing, c'est ça.
Voilà, qui fait partie des Paris Light avec Monsieur Franzi d'Orléans, qui m'accueille en shadow coaching. Au Paris Light, donc l'équipe professionnelle de football américain.
Et qui a promis de revenir parler de la nouvelle équipe.
Ah là, nous verrons la saison prochaine. Mais la formation des coachs, justement, c'est ça qui est très important. Moi qui suis une femme qui n'ai pas été sur le terrain de base, être formée par un head coach aussi sympa que celui des Paris Light, c'est vraiment super. Mais il parle anglais exclusivement, donc je m'adapte à tout ça.
Excellent. C'est tout pour les infos ou il y en a d'autres? Ou alors, un dernier petit mot, il faut passer par votre site internet
Alors, le site internet est toujours en cours de construction. C'est pour ça que je propose aux gens de passer par notre Instagram Cobra de Paris, Cobra avec un S, et de nous écrire, de venir faire des essais chez nous dans le 15e. On donnera toutes les infos, tout ce qu'il y a à faire. Et un dernier partenaire qui est On Air. On a un partenaire On Air 13 BNF qui est juste au-dessus de chez vous et avec lequel nous avons des tarifs très 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 intéressants, boissons comprises ou non, selon les tarifs des gens.
Eh bien, c'est très bien. Merci Tania, en tout cas.
Merci beaucoup.
Pour donc nous parler un petit peu de la vie du foot US. Très brièvement, elle parlait des arbitres. Il y a des commissaires de course dans votre sport ?
Effectivement, oui. Dans les différentes disciplines, il y a des commissaires de course. Il y a toute une organisation autour des courses. Vous avez parlé de sécurité, d'encadrement de sécurité. On a aussi une organisation très, très sophistiquée. On a des médecins spécialisés sur des bateaux médicalisés. On a des associations de plongeurs qui s'allient aussi pour aider les pilotes à sortir du bateau lorsqu'ils sont retournés. Donc c'est effectivement, enfin c'est dans tous ces sports qui sont voilà, qui ont de l'adrénaline mais aussi un peu de danger, il faut absolument encadrer avec des professionnels dans tous ces domaines-là.
Est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes pour même pour les écoles? Ça se fait, je sais, dans le foot US. Est-ce que...
Au sein du Yacht Motor Club de France, on l'a jamais fait. On a fait des événements pour attirer du monde, mais je suis convaincu que les clubs en région qui ont un historique, une pratique des courses motonautiques depuis beaucoup plus longtemps, sont très en soutien de leurs écuries et certainement ils organisent des journées portes ouvertes pour faire découvrir le sport au plus grand nombre. C'est un de nos sujets aussi, de nous rendre plus attractifs, plus visibles vis-à-vis du grand public, parce que le grand public c'est ce qui attire aussi les annonceurs, mais parce que c'est un sport qui est vraiment plaisant, qui est dynamique à voir et sont aussi de très beaux spectacles.
Oui, alors on parlait de l'association Adaptateam pour le sport handicap. Est-ce qu'il y a aussi des actions à travers le sport handicap ?
Je n'ai pas connaissance d'action particulière, mais en fait c'est un sport qui est assez ouvert au plus grand nombre. J'ai pas connaissance de handicap particulier. Après, clairement, il faut pouvoir avoir une certaine aisance, une certaine mobilité parce que c'est un sport. Enfin, on est sur l'eau, on est en contact. Enfin, les bateaux sont en contact les uns parfois avec les autres. Il faut pouvoir avoir cette aisance quand même pour s'échapper.
Très bien, vous restez avec nous. Oui, c'est une émission très omnisport. On va finir par Roland Garros, donc deuxième semaine. Je vais saluer donc notre consultante, Myriam Emner. Bonsoir Myriam, ça va ?
Bonsoir Philippe.
Tu t'es régalé ?
Super.
Cette deuxième semaine ?
Encore une semaine.
Même la finale, elle était décevante, tu as la finale quand même.
Laquelle ? Homme ou femme ?
Homme.
Homme, quand même, 5-7. 5-7, c'était pas mal.
Ouais,
il y a eu un petit suspense.
Ouais, mais enfin, beaucoup ont gagné les points sur les fautes des autres, quoi.
Ouais, c'est vrai que le niveau n'était pas dingue.
Ouais, ouais.
Mais il y avait quand même du suspense.
Ouais. Alors, justement, on va revenir, Stéphane, Myriam, Vanessa, et sur cette semaine. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette deuxième semaine ?
Alors moi, ce qui m'a marqué de mon côté, c'est plus côté tennis féminin, moi, honnêtement, j'ai vraiment été enchanté de voir le parcours exceptionnel de Maja Rafalińska jusqu'en finale, sortie des qualifications haut la main en plus, et qui a réussi à se faire
parcours. C'est une première
dans l'histoire de Roland. Elle arrive donc en finale face à Mira Andreeva. Premier match face à une top 10, faut le dire aussi pour elle. Là, c'était plus compliqué. On sentait que, au-delà du fait que la marche pouvait être un peu haute, c'est surtout physiquement où elle a commencé à pêcher. Elle était beaucoup moins en forme. Elle arrivait beaucoup moins bien à mettre son jeu en place, son jeu constitué de variations diverses, que ce soit des montées à contre-temps, du slice, aucune balle identique. C'est vraiment un jeu qui a fait déjouer toutes ses adversaires tout au long de la quinzaine. Malheureusement, ça a été le match de trop sur le plan physique pour elle, ce qui a donné un score presque à sens unique.
Est-ce que ça a été le côté physique ou le côté émotionnel de l'événement ? Parce que bon...
Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit le côté émotionnel, c'est vraiment le côté physique.
Donc une finale, c'est un petit peu particulier. Quand
oui,
même.
Mais faut pas oublier que Rafalińska, elle a joué quasiment 3 semaines, la première semaine
elle
en qualif.
Elle est passée par les qualifs.
Ouais. Et oui, elle est passée par les qualifications. La première semaine, elle a réussi à s'extirper d'un sacré parcours quand même, puisqu'elle
Sakkari.
Sakkari
en 3-7.
Carole
Monet, Alice Ramé.
Alice Ramé, oui. Il y avait encore son quart de finale aussi qui était assez disputé, il me semble.
Son quart.
Je sais plus si c'était son quart ou son huitième de finale où elle joue Kalinina, je crois.
Ah oui, Kalinina, oui,
voilà.
Exact.
Eh bien, exact. Eh bien, elle a réussi ce qui était fort dans ce match. Et Diane Paris, j'allais oublier.
Celle qui a éliminé. Ouais.
Tout à fait. Ah, et c'est son jeu plein de variations et de balles absolument différentes qui ont fait déjouer toutes les joueuses. Et honnêtement, moi, ça a été mon vent de fraîcheur sur l'intégralité de la quinzaine par rapport au tableau masculin que j'ai trouvé exceptionnel en première semaine et particulièrement décevant, frustrant en deuxième.
Bon, t'es d'accord avec moi sur la finale?
Oui, disons que...
Bien sûr, ça a été en 5-7, mais enfin...
Oui, ça a été en 5-7. Disons que, en fait, sur le début du match, premier set et milieu du deuxième, c'était autour du soleil pour Zverev. Vraiment, il n'y avait que lui sur le court, Kobolyi était absorbé par l'événement.
Ça, c'est peut-être le côté émotionnel. Le premier set qu'il y aura de Kobolyi, c'est peut-être le côté émotionnel. Première finale, quand même, d'un grand chelem.
Bien sûr, mais c'est aussi Zverev qui se prépare particulièrement bien sur l'événement. C'est l'expérience qui parle, quand même. C'était sa quatrième finale. En grand chelem en carrière.
Il a eu quand même quelques loupés. Hein.
Oui, il y a eu quelques
côtés événementiels. Il s'est pas senti toujours très bien en clé. Hein.
Ouais. Certes, mais quand même, ça a joué au début du match. D'où le fait qu'il ait si bien démarré et qu'il se soit crispé au fur et à mesure du match.
Oui.
Ce qui a donné un troisième set où Kobolyi a réussi à revenir dans le match, même si ça se termine à 2-7-1 pour Zverev. Il break quand même le quatrième set au tie-break, tendu comme pas possible.
Zverev menait 3-1 en plus.
Il menait 3-1 dans le tie-break, tendu comme pas possible, ça se finit à 7-5 pour Kobolyi.
Une petite double à 3-3.
Oui, voilà. On s'est dit, le bras commence à être un peu lourd. Et puis, finalement, le cinquième set, là, il n'y avait juste plus rien dans le sac pour plus personne. Et puis, ça a permis à Zverev de se libérer un maximum. Et puis, de remporter le match, remporter la finale en 5-7. Première victoire pour un Allemand à Roland-Garros depuis Henner Henkel en 1937.
Ouf.
C'est-à-dire qu'il pense que ça datait d'il y a longtemps pour Zverev. Hein, donc, quatrième finale pour lui après l'US Open 2020 face à Thiem, Roland-Garros 2024 face à Alcaraz et l'Open d'Australie 2025 face à Sinner. Et de l'autre côté, pour Kobolyi, c'est mine de rien, même s'il arrive en finale et qu'il s'incline en finale, c'est tout de même le quatrième joueur italien en activité à entrer dans le top 10 après Sinner, Musetti et Berrettini.
Alors, vous voyez, contrairement aux idées reçues, il a gagné sa demi-finale par forfait.
Oui.
Il n'a pas pu venir. Parce qu'ils sont tellement bien préparés, les sportifs, que ceux qui s'en occupent savent adapter effectivement les profils à chaque compétition. Hein.
Voilà. Certes. Ouais. Mais
ils savent adapter les soigneurs. Zverev n'était pas plus fatigué que lui.
Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment pas une question de fatigue physique. C'était vraiment une préparation mentale. Et là, c'est l'expérience qui a joué, surtout sur Zverev.
Justement, en parlant de fatigue physique, j'avais vu une stat comme quoi Andreeva était à 8h et quelques de match et Chalinska était à 14h et quelques. C'était le double. Donc peut-être que ça a pu jouer aussi dans la balance à un moment donné sur l'intensité des frappes.
Et puis pour revenir justement sur cette finale dames, ce qui était bien, c'est que Andreeva gagne son premier grand chelem à 19 ans, hein, ce qui
fait une
des plus
jeunes. Donc on a deux nouveaux qui n'avaient jamais gagné le grand chelem en plus.
Tout à fait.
Donc
tout
ça
à fait.
C'est une grande première quand même.
Donc ça c'est une grande première. Andreeva qui remporte son premier grand chelem à 19 ans, ce qui est extrêmement jeune. Mais surtout, et ça par contre, ça me soulage vis-à-vis de Rvalinska pour tous ceux qui suivent le circuit secondaire, avec son exceptionnel parcours, elle passe de la 114e à la 21e place mondiale, ce qui lui assure un statut de tête de série pour les 4 prochains tournois du grand chelem. Et accessoirement, les sponsors qui viendront la voir pour financer le reste de sa saison. Et ça, c'est un énorme soulagement.
À savoir qu'elle n'a même pas de sponsor textile actuellement. Oui. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'elle aura une wildcard pour Wimbledon? Je ne sais pas.
Oui, puisque soit on privilégie le classement avant Roland-Garros, soit on privilégie le parcours de Roland. Et ça, pour le moment, on n'a pas encore la réponse.
J'espère pour elle, ça serait mérité.
Ce serait largement mérité, oui, tout à fait.
Alors, on va rappeler les sets quand même. 6-5, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. C'est un match qui a duré plus de 4 heures.
Oui, 4h16 pour être précis.
Et puis, chez les femmes, donc, Andrea, c'était beaucoup plus simple, 6-3, 6-2.
6-3, 6-2, match plus simple. C'est vraiment le score. Le score ne reflète pas la beauté de la finale, cela dit.
Ouais. Et donc, je voulais juste rebondir sur toute la finale homme. Hein, donc je parlais que de ce que j'ai vu.
Bien sûr.
Pour moi, je vous avais dit la semaine dernière, Zverev, je savais que ce ne serait pas forcément fait. Et dans ce match, j'ai beaucoup apprécié quand même la fougue de Kobolyi et certains très beaucoup qu'il a joué. Évidemment que c'était serré. Philippe, vous disiez que c'était un peu décevant.
Oui.
Moi, je dirais juste que c'était qu'on a forcément, on a senti la nervosité des deux. Et que pour moi, ce qui est notable, c'est que même si Zverev pouvait à la base dominer un peu plus, il fallait aussi qu'il arrive à vaincre ses démons. Et avec certaines finales sur lesquelles il était passé à côté par le passé, là, il a fallu qu'il se surpasse. Et c'est ça qui m'a marqué. Évidemment, il y a eu beaucoup de doubles fautes de sa part, oui. Chose qu'il ne faisait pas sur Roland Garros ou même d'habitude. Mais moi, ce que je note, c'est le fait qu'il ait réussi à faire ça. Voilà, à 29 ans, finalement, il va au bout parce que, comme il l'a dit, il savait que c'était maintenant ou jamais. Ah oui, bah, et puis. Oui. Et puis,
là, les étoiles étaient alignées cette année. Hein. On ne pouvait pas faire mieux avec tout le
caractère. Même s'il n'était pas face aux favoris, il faut aussi noter qu'il a quand même eu, Zverev, un parcours assez particulier. Parce que, chose qu'on sait un peu moins, il a aussi, il souffre de diabète.
Et souvent, il est soigné en conséquence.
Oui, oui,
hein,
il est soigné.
Mais quand, partie des préparations quand dont
il
on est, parlait.
Quand il a débuté, en fait, quand il a débuté le tennis... qu'il était enfant, les médecins lui disaient « bon ben, oublie ça ». Donc, mais bon, moi, ce qui m'a noté sur l'aspect du jeu, c'était évidemment, chacun finalement était à un moment donné assez stressé et donc avait du mal à libérer le jeu. Mais au final, c'est l'expérience, hein, comme on le disait, qui a fait la différence. Et je pense que l'envie aussi d'aller jusqu'au bout pour Zverev. Mais pour Kobolis, c'est un très beau début et il a, je trouve, énormément de potentiel.
Oui, ouais. C'est, là-dessus, c'est confirmé.
Hein, parce que j'ai vu certains de ses coups, c'était assez ingénieux. Hein.
Oui, bien sûr.
C'est vraiment très beau.
Après Kobolis, pour le coup, lui, il faisait vraiment partie de cette génération dorée avec les Sinner, les Musetti, Berrettini. Il arrivait un tout petit peu en retrait parce qu'il était plus jeune. Mais pour le coup, oui, c'est
et justement, Stéphane, vous qui suivez vraiment de près l'actualité du tennis, comment vous expliquez un peu ce regain là, de l'Italie, enfin plutôt même cette émergence de l'Italie
vaste débat.
Parce que c'est vrai que c'est un petit peu comparable au tennis suédois des années 90 avec cette génération.
Ouais,
on a rarement vu ça, autant d'Italiens dans les dernières semaines, les derniers tours. Et je ne sais pas s'il y a une explication sur la préparation technique, sur des centres de formation, des choses qui ont évolué. Mais
alors, pour moi,
est-ce que vous avez eu quelques infos, peut-être ?
Alors, moi, de ce que je vois au niveau du tennis italien, c'est que eux, ils ont fait le pari de maximiser la création de tournois sur leur sol.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en France, pendant quelques temps, on a été le pays avec le plus de tournois Challenger. Les tournois Challenger, en gros, c'est la seconde division du tennis mondial. On a été le pays avec le plus de tournois Challenger, ce qui a permis à beaucoup de joueurs français de pouvoir gagner en classement sans quitter le territoire, ce qui peut créer énormément de dépenses et mettre financièrement à mal la carrière de joueurs. L'Italie s'est inspirée de ce modèle-là, a créé énormément de tournois sur son sol, ce qui a permis à beaucoup d'Italiens sur toutes les surfaces possibles, hein, que ce soit à terre battue, gazon, dur indoor, dur outdoor, de pouvoir prendre un maximum de points, un maximum d'expérience sans forcément quitter le territoire. Ce qui fait qu'on a beaucoup de jeunes joueurs qui connaissent déjà les spécificités de la terre battue, qui savent comment gérer les intempéries lorsqu'on joue sur dur extérieur, qui savent aussi un minimum comment le tennis sur gazon fonctionne, qui est une surface rapide.
Oui.
Donc ça, pour moi, c'est un premier élément. Et il y a un deuxième élément, et cette fois-ci qui a été noté par les journalistes lors de la deuxième semaine, c'est que si vous regardez bien dans les box des joueurs italiens, il y a une sorte d'unisson qui est faite pour les joueurs italiens. C'est-à-dire que vous avez tous les membres, ou plutôt un maximum de membres de la Fédération italienne de tennis qui sont présents dans les box des joueurs, ce qui permet de donner encore ce supplément d'âme aux joueurs une fois qu'ils sont engagés en grand chelem. Et ça aide énormément sur le plan psychologique.
Et hier, d'ailleurs, le public était largement pour Kobolis, on l'a senti.
Oui. Pour des raisons uniquement tennistiques.
Non, mais c'est ce que j'allais. On va pas débattre là-dessus,
mais je pense qu'il y a
forcément un aspect là. Il y a quand même cet aspect-là qui est d'ailleurs commun, parce que moi je l'ai observé dans différentes compétitions et qui relève sans doute de l'aspect géopolitique, même si on ne va pas s'étendre là-dessus, mais il y a peut-être ce côté-là et peut-être le côté proche de la France, je ne sais pas, mais au fond l'Allemagne, c'est pas plus. Voilà, mais
non. Bon. Non, mais on aime les. Hiérarchiquement les plus inférieurs, quoi. Voilà.
Oui, dans David contre Goliath à Roland Garros, sur le plan historique, on a toujours été contre David.
On préfère les challengers que les leaders.
Voilà,
c'est ça aussi.
Mais ça, c'est vraiment spécifique à Roland Garros.
D'accord.
Donc, non, mais après, effectivement, oui, on est aussi revenu sur les affaires extrasportives concernant Alexander Zverev.
C'est aussi pour ça que le public était
pour Kobolis plus que contre Zverev.
Alors, Andreeva, 19 ans,
oui.
La suite pour elle ? Il va falloir confirmer, parce qu'on sait quand même que les femmes, c'est assez chaotique.
Ben justement,
les parcours Roland-Garros. Hein.
Justement, Andreeva, ça fait un moment qu'elle est présente dans le top 10, non ?
C'est vrai. Ouais, c'est mais à voir après aussi sur là, Wimbledon, ça va être intéressant sur notre surface.
Ouais.
Et comment elle va gérer la pression aussi, parce que c'est pas facile une fois qu'on a eu un gros titre comme ça de confirmer, d'avoir. Mais après, moi je l'aime bien, je trouve qu'elle
parce
a une
que bonne quand attitude. On regarde les palmarès des femmes, il y a un nom différent chaque année.
Alors c'est ça, c'est de moins en moins vrai, ça par contre. Ça, c'est de moins en moins vrai.
Les palmarès, alors sauf peut-être pour Sanchek, mais prends les palmarès.
Sabalenka,
je suis pas sûr qu'elle ait gagné plusieurs Roland-Garros consécutivement.
Le problème, c'est que comme le disait l'équipe en titre, en une, Sabalenka s'est sabordée. Le mental qui malheureusement malgré toutes ses qualités qu'il a prend au bout d'un moment et qu'il a
c'est exactement voilà,
ce qu'il est 3-5-3 et elle marque plus un jeu plus jusqu'à la fin du match, c'est incroyable.
Et pour en finir avec Zverev, ça peut être une rampe de lancement, il peut en enchaîner d'autres des grands chelems, ça y est c'est fait,
honnêtement je suis pas sûr,
il perdra plus ses finales,
honnêtement je suis pas sûr. Alors ça peut l'aider si jamais il se retrouve en finale, mais faut pas oublier que Alcaraz et Sinner, quand ils sont présents, il y a du monde devant et il y a du monde derrière, parce que je veux pas dire mais les petits jeunes ils ont les crocs, je veux pas citer Arthur Fils par pur chauvinisme, mais il y a des jeunes joueurs qui ont les crocs. Je pense à Joao Fonseca qui a fait un parcours exceptionnel,
qui a battu Djokovic
en plus sur le tournoi. Je pense aussi à Rafael Rodar aussi, qui est la nouvelle pépite du tennis espagnol, lui aussi quart de finale. Jakub Mencik, 20 ans, le Tchèque, pareil, il arrive jusqu'en demi,
c'est sûr.
Zverev, c'était le moment, c'était maintenant ou jamais pour remporter un grand chelem, mais attention, parce que si devant on sait très bien ce qui se passe, derrière ça peut aller très
vite. Ça peut lui donner aussi un petit
regain de confiance. C'est ça. Mais hier, surtout, il ne fallait pas s'effondrer. Il fallait garder quand même la tête froide, même s'il savait qu'il n'avait pas Alcaraz ou Sinner en face de lui. Mais pour autant, il ne fallait pas lâcher et puis finalement se laisser dominer par un adversaire, voilà, par l'émotion. Et puis finalement, penser que c'est, entre guillemets, gagné et puis se laisser aller. Mais surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il a réussi à surpasser ses démons intérieurs et à pour aller jusqu'au bout. Voilà.
Ça se mentionne, tout à fait.
C'est ça aussi que moi je trouve beau dans cette victoire, même si en soi, en matière tennistique, c'est sûr que c'est pas un match qui restera dans l'anthologie du tennis, mais en tous les cas, c'est peut-être ça, moi, le point que j'ai noté.
Voilà. Oui, sur le plan sportif, je te rejoins totalement sur le sujet. Sur le plan sportif, c'est quand même le joueur qui a disputé dans le top 10 le plus de matchs en Grand Chelem, de demi-finale et de finale, sans remporter de titre.
Voilà.
Donc, au bout,
faut être tenace.
Il faut être extrêmement tenace et saisir les occasions qui se présentent. C'était quelque chose qu'on reprochait à la génération précédente.
C'était l'un des titres sur l'appli Roland Garros. C'est le slogan de Roland Garros, la victoire appartient aux plus opiniâtres. Voilà.
Juste un petit mot, vous avez suivi Roland Garros, vous aimez le tennis, vous aimez le sport en général, vous avez dit, non
J'aime le sport en général. Ouais. Ce week-end, nous avions une navigation flottille. J'ai pas pu regarder la finale.
Mais Roland Garros, ça fait partie des grands moments que vous suivez.
Bien sûr, tous les grands événements sont des moments fédérateurs qui intéressent tous les sportifs.
Comme les jeux, ça vous a plu.
Absolument.
Ah ouais, oui.
J'y étais.
Bah oui, c'est bien. Allez, on va parler des autres catégories. Un petit mot, le bilan des Français-Françaises. La dernière, ça a été donc Paris.
Qui
est tombé donc en huitième de finale.
En huitième de finale face à la finaliste, Maria Rafalinska. Moi, il y a quand même quelque chose qui me... Je ne vais pas dire qu'il m'insupporte, parce que le terme est trop fort. Mais il y a quelque chose qui me frustre vis-à-vis de Diane Parry, c'est que c'est une joueuse que je trouve une joueuse bien élevée. C'est une joueuse, c'est une intello du tennis. C'est-à-dire que elle a un très beau jeu, très esthétique, un revers à une main que je trouve fabuleux, extrêmement rare dans le top 100 féminin. Doit peut-être y avoir 3 ou 4 joueuses, pas plus, dans le top 100 mondial. Mais je trouve que d'un autre côté, son jeu... elle ne fait pas assez mal, si je puis dire. Elle présente bien, elle est toute gentille,
Tu veux dire qu'elle n'est pas assez méchante ?
Oui, justement, c'est ce que je lui ai reproché pendant très longtemps, et c'est ce qui est arrivé encore plus lors de son match face à Maria Rafalinska, parce que sur le plan de la puissance, sur le plan sur le plan tactique, tout était en place pour qu'elle puisse battre la Polonaise, et il a fallu... Allez, un jeu accroché à 6-3, 2 partout dans le deuxième, où c'était très compliqué pour elle d'aller prendre le break. Elle était sur le point d'aller saisir son service pour la première fois. Finalement, ça fait 2-2, et derrière, elle perd son service. Elle ne gagne plus un seul jeu. Et ça, c'est quelque chose que je lui reproche, parce que c'est une joueuse qui a tout dans la raquette pour aller encore plus haut. Là, elle, avec son parcours, elle est à la 55e place mondiale, puisqu'elle retrouve, à quelques encablures près, elle retrouve son meilleur classement en carrière, ce qui est une excellente chose, parce qu'elle a déjà été dans le top 50 mondial. Mais moi, j'aimerais la voir aller plus haut avec plus de caractère, encore plus de caractère, parce que le tennis est là, le sens tactique, il est là aussi. Mais là, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup trop timide, beaucoup trop polissée. Je veux voir plus de niaque. Par exemple, quand je vois Elsa Jacquemot qui s'énerve un peu contre tout le monde, ça a beaucoup fait rire, ça a beaucoup agacé. Mais je me dis, il y a du caractère là-dedans et c'est quelque chose que j'aurais aimé voir chez Diane, parce que c'est une joueuse que j'adore voir jouer, parce qu'elle a un super sens tactique, très beau revers à une main. Mais voilà, c'est le truc que je lui reproche, c'est qu'il faut qu'elle soit plus
méchante. Après, je pense que ça dépend du caractère de chacun. Moi, j'aime bien quand même son attitude, parce que justement, je trouve qu'elle est assez posée, assez calme. Mais c'est vrai que ça transparaît moins que des Elsa Jacquemot. Mais après, je pense que c'est quand même... Je pense que c'est personnel, c'est propre à chacun.
Ah oui, c'est complètement personnel, ce que je viens de dire pour le coup. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir, parce que je sais que dans son tennis, et surtout dans les résultats qu'elle a déjà eu auparavant, elle peut aller encore plus haut. Elle en a les capacités. Et,
À suivre dans les prochains tournois.
Dans les prochains tournois, moi j'ai hâte.
De très près.
J'ai hâte de l'avoir joué sur gazon.
Ah oui.
Alors les doubles.
Oui, alors les doubles. Je voulais revenir sur les doubles, messieurs, doubles dames.
Voilà.
Granollers Ceballos.
Tu peux nous donner les résultats alors.
Oui, 6-4, 6-2 donc pour Granollers Ceballos face à Eliovara Paten. Ce qui était bien, c'est que dans les deux tournois de double messieurs, double dames, on a eu la paire numéro 1 mondiale face à la paire numéro 2 en finale. Pour les messieurs, ce qui est bien, c'est que Granollers Ceballos, pour ceux qui suivent le tennis depuis avant les années 2010, eh bien ce sont deux joueurs de simple qui ont eu une carrière très honorable et qui se sont alliés au double pour toujours garder cette envie, cette passion du tennis. Et encore aujourd'hui, à 40 ans passés, 40 et 41 ans, ils sont toujours présents.
Beaucoup plus loin en double. Il faut le dire, en tennis, on peut jouer.
Encore plus âgé. Le record absolu, c'est le Canadien Daniel Nestor, qui lui a arrêté à 46 ans. Ouais. C'est ce que j'aime voir, c'est que dans ces paires de doubles, il y a des joueurs qui ont 40 ans passés et qui sont encore largement compétitifs. Pour revenir pour Eliovara Paten.
Ils ont été battus en finale, nos Français.
Oui, tout à fait. Eliovara Paten, pour revenir sur l'anecdote là-dessus, Eliovara Paten ont battu en demi-finale la paire Pierre Gerber et Quentin Alice en demi. Donc ça, c'était pour le double messieurs. Et pour le double dames, je voulais revenir aussi sur la victoire de Siniaková Townsend, la paire américano-tchèque qui remporte Roland-Garros. Pareil, là aussi, un match au sommet entre la paire numéro 1 et la paire numéro 2 mondiale. Victoire en 2-7, 6-2, 7-5 face à Danilina et Krunic. Siniaková, moi, c'est une joueuse que j'adore, parce que c'est une joueuse qui est à la fois une excellente joueuse de simple, mais aussi une très grande joueuse de double. Là, elle a remporté les 4 grands chelems en double. Et ce qui est fort avec elle, c'est qu'elle est numéro 1 mondiale incontestée, déjà. Mais surtout, elle a remporté un grand chelem avec 4 joueuses différentes au long de sa carrière. Eh oui, elle a commencé avec Lucy Radetchka au début de sa carrière, puis il y a eu Barbora Krejcikova pour le gros de sa carrière en double. Il y a eu Coco Gauff aussi récemment. Oui, Coco Gauff il y a 3-4 ans, et depuis on va dire fin 2024, début 2025, elle est associée à Taylor Townsend, une autre joueuse américaine gauchère et qui en plus a une super histoire, parce que vraiment elle est partie de rien, absolument rien. Elle a créé sa collection de vêtements pour pouvoir financer ses saisons. Elle est mère aussi, donc le fait d'être maman sur le circuit, c'est quelque chose de on va pas dire de difficile, mais c'est quelque chose à vraiment faut vraiment être organisé pour pouvoir vraiment financer sa saison, aller aux quatre coins du monde et pouvoir être maman en dehors des matchs. Donc moi, honnêtement, cette victoire là, moi j'aime beaucoup, parce que c'est une paire qui est très très fraîche. Elles se prennent pas la tête, il y a une communication qui est très très drôle sur les réseaux. On a l'impression que ce sont deux copines depuis la vingtaine d'années, alors qu'elle joue officiellement en double depuis à peine 18 mois, et ça, pour le coup, c'est vraiment vraiment top.
Et on parlait des Italiens, ils ont gagné le double mix.
Voilà, avec Andrea Vavassori et Sara Errani, qui est toujours vivante, décidément.
Ils ont gagné Roland Garros.
Tout à fait, ils conservent leur titre, Vavassori et Errani. Sara Errani,
il y a eu 4-6, tu vas nous expliquer, 4-6, 6-3 et 10-4.
Oui, parce qu'en double, et notamment en double mixte, sur le résultat, ça se joue en 2-7, la victoire se joue en 2-7, mais lorsqu'il y a un set partout, on joue un super tie-break de 10 points.
Ah d'accord.
Voilà. Donc d'où le fait qu'il y a un score de 10-4, 17, 18, voilà, ça peut se jouer.
C'est qui tout double, hein.
C'est vraiment qui tout double, exactement. Exactement.
Jamais évident.
Pour la petite anecdote, à l'Open d'Australie en début d'année, il y avait une paire française et une paire mixte, Christian Mladenovic et Emmanuel Guinard, qui ont joué la finale de l'Open d'Australie en double mixte. Et malheureusement, comme tu dis, qui tout double, ils se sont inclinés au super tie-break du troisième set en finale.
Et puis on ne voulait pas oublié le tennis Andy.
Oui, tout à fait. Oui. Avec
Xenia, japonais. Ouais. C'est Oda qui a gagné, c'est ça.
Oui, ça, du côté des hommes. Alors lui, c'est même pas conservé son titre. Lui, il a sa statue à Roland puisque c'est son quatrième titre consécutif.
6-3, c'est ça.
Tout à fait. 6-3, 6-3 en finale. Quatrième titre consécutif à Roland. Lui, c'est le back to back pour reprendre l'expression du PSG. Ouais. Et puis du côté des dames, Xenia Chasteau qui est la pépite du tennis handisport français, 20 ans seulement, qui est arrivé en finale pour la première fois de sa carrière, battue par légendaire Didier de Groot, qu'on surnomme en interne, 606-0, le score est très très sévère, mais c'est la meilleure joueuse, faut dire aussi Didier de Groot, c'est la meilleure joueuse de l'histoire, elle a remporté tous les grands chelems à au moins 6 reprises chacun, ce qui est extraordinaire, de l'autre côté, Xenia Chasteau, 20 ans seulement, talent de venir, quand même sur son parcours, faut le noter, elle a battu successivement la numéro 3, puis la numéro 2 mondiale pour arriver en finale. Donc un grand chapeau.
À suivre aussi sur les prochains grands chelems.
Tout à fait.
C'est de bonne augure.
Ah oui, c'est de bonne augure pour la suite.
Alors pour finir cette émission 2026, cette édition 2026 et finir aussi cette émission, c'est un Roland Garros qui fera date, qui sera historique malgré tout. Déjà 2 vainqueurs pour la première fois, une palanquée de forfaits et puis de défaites dès les premiers tours des favoris. Pour ça restera une édition dont on se rappellera.
Oui, c'était une bonne édition, je pense. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses.
Si, c'est une bonne édition entre la canicule, tous les forfaits, toutes les têtes de série qui sont tombées. Tous les commentateurs, Justine Hénin, Laurent Luyat, sur le plateau, ils tous s'accordaient à dire que c'était dingue. Et là encore, avec le forfait de Arnaldi 20 minutes avant le match, c'était que des rebondissements sans arrêt.
Ah oui, vraiment, ça s'est pas arrêté à ce niveau-là, que ce soit même pour les Français aussi, le fait de voir Moïse Kouame au troisième tour, c'était extraordinaire à vivre. Il y a beaucoup, beaucoup de belles choses qui se sont passées dans cette édition 2026. Ouais.
L'éclosion un peu de la nouvelle génération, finalement, avec qui a pu, avec toutes ces conditions-là, peut-être un peu montrer de ce dont elle était capable, en fait. Peut-être un petit peu aussi. Qui ne sont pas encore confirmés, mais qui finalement montrent quand même un petit peu des choses. On entrevoit le futur, même si on sait que les grands, les immenses champions, comme Novak Djokovic notamment, ont été jusqu'au bout et ont montré des choses. Et ce que j'avais beaucoup aimé, ce que j'avais souligné la semaine dernière, c'était l'attitude de Novak Djokovic en conférence de presse juste après sa défaite face à Fonseca. Il a assumé sa défaite et c'est ce que font les grands champions. Oui, donc même si là il est sorti, après on le reverra. Mais c'est intéressant d'avoir cette perspective et de la nouvelle génération et des favoris qui sont un peu tombés mais qui savent très bien qu'ils ont l'expérience et qui vont revenir. Mais pour le futur, c'est intéressant d'avoir cette projection-là qui est peut-être envisageable, justement.
À ce niveau-là, c'est ce qu'on rappelait tout à l'heure, notamment chez les hommes, avec Fonseca qui a 20 ans, Rodar aussi qui vient d'arriver, Mensik, Arthur Fils aussi, même si, en ce moment, il est un peu à la cave, le pauvre. On lui souhaite de revenir pour une Wimbledon. Mais pareil, ce sont des joueurs qui ont les crocs, ils ont 20 ans à peine, ils regardent les anciens droit dans les yeux, ils n'ont pas peur de leur dire « Moi, je viens pour te battre ». Voilà, il n'y a pas cette histoire de « je respecte, c'est Roger Federer, c'est Rafael Nadal, il a un palmarès ». Non, je suis là pour venir te battre, et ça c'est quelque chose.
Moi j'ai vu ça un peu chez les Italiens, parce que j'ai pu suivre le match Tiafoe-Arnaldi, je parle que de ce que j'ai vu. Par rapport hier à Zverev Koboli aussi, il y a plein de matchs que j'ai pas vu, mais en tous les cas, sur ces deux matchs, c'est ça que j'ai senti, c'est déjà pour Arnaldi face à Tiafoe, c'est « de toute façon, j'irai jusqu'au bout et je lâcherai rien », Et pour Koboli hier, moi, ce qui m'a marqué, c'est la fougue. Et c'est quand même, j'essaye, je tente, j'y vais avec des belles choses aussi. Et moi, c'est ça qui m'a marqué. Voilà.
On est prêt à voir très rapidement, puisque
la Next Gen.
Avec la Next Gen. C'est la Next Gen. On est prêt à voir ça très rapidement.
La particularité de ce Roland Garros, un petit peu.
Et puis, on n'oubliera pas, en tout cas, tous les hommages rendus aux anciens champions et championnes. Marie Pierce.
Et les tournois des légendes, d'ailleurs.
Ça,
c'est une tradition.
Oui, ça a été bien fait à ce niveau-là, je reconnais, avec beaucoup. Gaël Monfils, son hommage qui a été rendu.
Stavrovica, David Goffin.
Monfils.
Caroline Garcia aussi.
Évidemment.
Franchement, c'est top.
Allez, dernière petite minute. Quels sont vos prochains rendez-vous dans votre club ?
Écoutez, on essaie d'avoir une activité dense, ouais. Mais donc nous, au sein du Yacht Motor Club de France, on organise régulièrement des événements, des rassemblements, et notamment de vieux canots, des navigations en flottille. Après, les prochains événements, bah, c'est début juillet, Monaco, le Monaco Energy Boat Challenge, où on a notre équipe donc, qui va courir sous nos couleurs et sous les couleurs françaises. Hein, depuis quelques années, ils sont toujours la première équipe française au classement général. Et puis, au sein de la Fédération française motonautique, les prochains événements, c'est les prochaines étapes du championnat de France. Donc, à Albi, donc c'était le week-end dernier, à Mâcon à la fin du mois de juin, à Chalon-sur-Saône fin août et à Caen début septembre.
Très bien, merci Jean-Jacques. À très bientôt en tout cas, voilà, pour
merci.
Cette émission encore très dense et très variée. Merci à Daniel, immense merci à Daniel pour avoir été une nouvelle fois brillamment à la technique ce soir. Je laisse le témoin à nos amis d'Au bout du foot. La semaine prochaine, on passe en configuration mondiale, hein, 19h-21h avant les matchs de l'équipe de France, mais il y aura quand même un point de l'actualité sportive. Voilà, belle soirée à toutes et à tous.
Belle
et puis on finit en musique comme chaque lundi. Et rendez-vous donc la semaine prochaine en configuration mondiale. Et Au bout du foot dans quelques minutes.
Seul le crime passé, c'était nous.
Les hommes.
Ceux qui plaintaient, c'était vous.
Les hommes.
Coup de genoux.
Les hommes.
Ici, y'a que de l'eau.
Les hommes.
Seul le crime passé, c'était nous.
Les hommes.
Ceux qui plaintaient, c'était vous.
Les hommes.
Coup de genoux.
Les hommes.
Ici, y'a que de l'eau.
Les hommes.
On a la rue sur le dos.
Les hommes.
J'suis en solo comme Calimero.
Les hommes.
J'ai fumé la San Pedro.
Les hommes.
Classico 5-0.
Les hommes.
Comment ça va, Ligato?
Les hommes.
Assis sur des Forti Ardo.
Les hommes.
Elle enlève son paréo. Et j'finis sur son dos, couteau de boucher dans la colonne. J'ai rien appris à l'école, sauf qu'il faut arrêter tôt. Comme XB Barbare et Leto, Toro le nom de mon cognac. Rien sur le caillou comme Kojak. Les Halki Ground Zero, est-ce que tu m'entends? Eh oh, j'suis en enquête comme 4-0. Africa, j'ai pas les mots. Coco di Bamako, Rio de Janeiro. Le 11-43 te met au pas, c'est pas l'effet placebo. J'ai produit à Calello, faut qu'un colon, faut que Laurent Bruno. Sont vides comme les nains situations. Ils s'approchent des petits garçons. Arme à la main, méditation. Tous les tués sans explication. J'suis devant mon poulet à loco. Soir si j'suis bagayoko. Tant l'autre jour dis oui patron. J'ai pas reçu cette éducation. J'suis la Russie au sous paloton. T'es la France de Brigitte Macron. Le diable s'habille pas comme Prada. Pour un gras comme Théodora. J'ai ma side bitch sur le côté. C'est comme un produit dérivé. Dans quelques jours c'est la finale. PSG aura 2 étoiles. Seul le crime fait c'était nous. Ceux qui plaintaient c'était vous. Coup de genoux. Et s'il y a que de l'eau. Seul le crime fait c'était nous. Ceux qui plaintaient c'était vous. Coup de genoux. Et s'il y a que de l'eau.
I'm gonna go